Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans The Boys.
C'est Club, non, c'est ça?
C'est Club.
Oui, oui, bravo.
C'est de pire en pire, ce jingle. Non, faudrait qu'on en fasse un vrai un jour. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité. Un mercredi sur deux à 18h, il y a un nouvel épisode sur YouTube. Et avant, tôt le matin, sur toutes les plateformes de podcast du monde. Donc, abonnez-vous. Merci d'écouter. Je suis avec Fab, mon co-animateur.
Bonjour, Mimi.
Et aujourd'hui, on reçoit Roman Fraissinet.
Eh bien, bonjour.
Le plus beau.
C'est vrai.
Beau, je sais pas, mais...
Le meilleur.
Que les autres, ils vont être jaloux, les autres invités.
Non, c'est...
Sachant que tu fais partie des invités aussi.
J'ai le droit d'avoir mes préférences et de trouver que Roman est le plus beau, même plus beau que moi.
Non, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Merci beaucoup d'être
j'aurais
là.
J'aurais aimé que tout le monde partage cette opinion. Hein. Moi, si j'avais été beau, j'aurais pas été obligé d'être marrant. Hein.
ce qui est vrai, c'est pas con.
Ah ouais, j'aurais pas perdu tous ces efforts à essayer d'être intéressant autrement.
Ça commence
très bien.
Très bien.
Roman, tu es donc comédien de stand-up,
humoriste. Ouais, tout à fait. Ouais.
Tu jouais à Paris, mais tu es en pause pour l'instant.
On joue toujours un peu, mais la majorité du temps, c'est un peu officieux. Mais on va reprendre officiellement à la rentrée en octobre.
Cool. Ouais. Et tu es dans Click.
Je suis dans Click, tout à fait. Ouais.
Sur Canal+.
Tous les dimanches, en clair, 13h50.
Tu viens 3 minutes et tu retournes le truc, quoi. Vraiment.
Ouais, on essaie, ouais. Après,
on
est dans des conditions qui sont idéales. Mouloud, il est charmant, il me laisse une liberté folle. Toute l'équipe est adorable. Donc, t'as envie de travailler fort, quoi. T'as envie de leur rendre ce qu'ils te donnent.
On va commencer par la première question.
Allons-y.
Ça veut dire quoi pour toi être un homme?
Je sais pas vraiment. Ça dépend si on, il y a tellement de, on mélange plein de choses avec le mot homme. Il y a l'aspect physique, genre le sexe que t'exprimes physiquement. Après, il y a être un homme. Des fois, quand on dit être un homme, on inclut des femmes dedans. C'est-à-dire, on met des valeurs. Donc, je sais pas trop quel aspect de la question on prend. Parce que
celui
c'est être un homme, c'est avoir exprimé physiquement le sexe masculin ou alors se sentir comme tel, j'imagine. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui expriment physiquement le sexe féminin, mais qui s'identifient comme masculin ou comme autre. Donc, je dois avouer que c'est quelque chose d'extrêmement flou. Physiquement, je pense que ça existe. Après, mentalement, je sais pas si c'est si clair que ça. Moi, j'ai toujours identifié être un homme par rapport à un registre de valeurs. Dans le sens où c'est ça qu'on, pour moi, être un homme, c'est, je sais pas, par exemple, être sincère, être honnête, tenir ses promesses, aller au bout de ses challenges. Mais c'est quelque chose qui, enfin, c'est des valeurs qui s'appliquent aussi quand t'es une femme, en fait. Donc, je sais pas trop comment répondre à cette question, pour être honnête.
Il n'y a pas de mauvaise réponse, oui, c'est ça qui est intéressant avec cette question.
Ouais, mais c'est, la question est tellement large, en fait. On peut la prendre sous plein d'aspects, il faudrait faire... Ouais.
Tu sais pourquoi on pose cette question à tous les invités?
Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est... Et je suis content que cette réflexion arrive, mais on est dans une énorme réflexion sur qu'est-ce que le genre. Et puis on réalise, je pense, très facilement, une fois qu'on pose la question, que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est une question qu'on a refusé de se poser pendant longtemps. Ou alors tu naissais avec un sexe, t'es un homme, et c'est ça être un homme, et voilà comment un homme devrait être, et pareil évidemment avec les femmes. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'on pose la question, pour qu'on entame la réflexion.
Il l'a.
Ah oui.
Eh, c'est pas la moitié d'un couillon.
On essaye.
Quand tu parles des valeurs que t'associes à être un homme, elles te viennent d'où à ton avis?
De mon éducation, beaucoup. On suit des modèles, je pense, évidemment familiaux. Et puis il y a aussi une éducation culturelle aussi, il y a des héros qu'on nous présente. Je pense qu'il y a ça aussi dans cette idée d'être un homme. Il y a ressembler à je sais pas, il y a quelque chose de noble dans la définition en tout cas que je préfère entendre. C'est ouais, une espèce de noblesse, quelque chose de proche de la chevalerie limite, quoi, avoir un code et le respecter. Et voilà, il y a un côté aussi au service des autres. Donc je pense que c'est le résultat d'une éducation et aussi de probablement de ce que j'ai consommé culturellement, ou du moins de ce qui m'a touché dans ce que j'ai consommé culturellement.
Est-ce que tu as des idées de modèles masculins qui t'ont parlé au niveau culturel?
Ah oui, il y en a beaucoup, et pour plein de raisons différentes. J'ai eu des phases, en fait. Pendant longtemps, j'aimais les hommes tristes, beaucoup tristes. J'étais très fan des poètes quand j'étais plus jeune, et des artistes très tristes en général. Je trouvais qu'il y avait une masculinité intéressante. Je regarde aussi énormément de UFC. L'Ultimate Fighting, donc on est dans l'opposé total où c'est des gens extrêmement... c'est des combattants en fait à un autre niveau en fait, donc c'est des guerriers. C'est, si t'appliques ces valeurs-là dans tous les registres de ta vie, tu penses que tu peux remplir beaucoup de tes objectifs. Et puis après, il y a... Moi j'aime aussi... Pendant longtemps, j'aimais beaucoup aussi les hommes qui assumaient beaucoup leur part de féminité. Moi j'ai été très fan de Prince notamment pendant longtemps pour ça. Pas que pour ça, évidemment, parce que ça correspondait à un univers, ça envoyait un message intéressant. Donc je pense que oui, il y en a plein. Il y a plein de modèles, mais au final, c'est pas tant leur masculinité qui a fait de des modèles. C'est plus des attitudes, en fait.
Est-ce que dans ta construction avec tes différentes phases et tes différents modèles, il y a des moments où tu t'es interrogé, où t'as douté de ta capacité à être un homme comme la société l'attendait ? Est-ce qu'il y a des moments où t'as eu l'impression de pas être assez un homme ou de pas correspondre à ce qu'on attendait de toi ?
Ah mais ça, moi j'ai abandonné il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'ai arrêté avec le sport, moi, en fait. J'ai fait du sport quand j'étais plus jeune et ça allait, en fait. J'étais assez bon, en fait, étonnamment.
Tu faisais quoi comme sport ?
J'ai tous fait. J'ai fait du tennis, j'ai fait du football pendant longtemps, j'ai fait du handball, j'ai fait de l'athlétisme. J'en ai fait beaucoup, et il y avait beaucoup cette idée de « alors quoi, t'es un homme ou t'es pas un homme ?» J'allais leur dire « mais c'est pas comme ça que tu vas me motiver, cousin. C'est pas comme ça que tu vas me motiver, en fait. Moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Ça me motivera jamais. J'ai pas envie de m'y... C'est pas une identification qui va me faire progresser. » Et donc, très rapidement, je me suis éloigné de tout ça. Je me suis dit « non, c'est pas comme ça que je vais être un homme. Tu peux être un homme pour bien... Enfin, un homme dans le sens noble du terme, hein. Je veux dire être un monsieur, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Tu peux l'être dans tous les domaines. » Et donc moi, très rapidement, je me suis tourné vers l'expression, en fait. C'est là que je me trouvais plus à l'aise. Je me suis dit, non, je vais essayer d'être un homme dans ce que je fais. Je le ferai pas physiquement, en fait. Mais ça fera pas de moi un homme.
Tu parles beaucoup de ton père aussi, de l'influence qu'il a pu avoir sur toi. Et en général, on a tendance à parler avec nos invités de leur rapport à leur père. Toi, il a l'air d'avoir eu...
Ah, moi, c'est un... Ouais, c'est un... Il est impressionnant, en fait. C'est ça qui est étonnant. Puis on a eu une éducation, moi et mon frère, mais je pense surtout moi parce que j'étais le deuxième et mon frère, moi j'ai cette chance d'être deuxième, où mon frère il a ouvert des portes pour moi et moi j'ai eu une liberté dans ma vie, dans ma jeunesse extraordinaire. Et mon père était très très strict quand j'étais jeune, et c'était très voulu, il a voulu mettre des bases très très tôt de où tu vas pas. Et après ça il m'a laissé extrêmement libre. Donc j'ai une relation avec mon père qui est très particulière, c'est une autorité mais pas vraiment en fait, dans le sens où c'est pas lui qui me la met. Il a fait en sorte que je sois ma propre autorité très très tôt. Et après, c'est juste devenu un modèle en fait. Il a une approche du travail extraordinaire, il a une capacité d'effort folle, il a une générosité incroyable. Il est très discret aussi. Il y a quelque chose aussi, moi, étonnamment, mon père est quelqu'un de très mystérieux pour moi. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de... Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je pense que c'est voulu, moi j'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense qu'il fait exprès. Il fait exprès. Parce que le meilleur moyen d'être un modèle, c'est de se taire sur la majorité des choses. Je pense.
Tu penses pas qu'on peut être un modèle en s'ouvrant, justement?
Oui, on peut s'ouvrir, mais... Moi, je pense que le mystère, c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de montrer ce que t'as de meilleur. Parce qu'évidemment, c'est un homme, mon père. Il a lui aussi ses faiblesses. Il a eu mon âge, il a fait des dingueries, il a dû faire... C'est sûr. Moi, je me vois, je me dis, moi, il m'arrive d'être déglingué. Bon, je l'ai pas inventé. Lui aussi, il était déglingué, c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui me montre, et je pense qu'il a raison de le faire. Dans le sens où, pour moi, il se doit d'être un modèle. Et donc, il décide, je vais montrer que ce que je pense qu'il est intéressant de montrer en exemple, en fait. Et donc, de là, il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais c'est bon. Je pense que les mots, c'est vraiment pas la meilleure manière d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Je pense que quand on lui dit « bon bah la vie c'est ça » ou « voilà », tu pars avec des mots, mais bon. Je pense que l'observer chez quelqu'un, c'est beaucoup plus efficace.
Oui, c'est sûr.
Et je pense que c'est ça qu'il a choisi un peu. Et moi, je sais que ça a eu beaucoup d'effet sur moi.
Mais j'ai un peu l'impression, étant parlé dans ton interview avec Antonin sur Nouvelle École, si vous aimez Roman, allez écouter parce que vraiment c'était génial, qui t'a un peu légué une forme de puissance, en fait, ton père, tu vois, qui est pour le coup très masculin et très viril, si tu veux, et qu'à côté de ça, il t'a aussi ouvert à plein d'autres valeurs qu'on pourrait définir, alors c'est très con, mais un peu plus comme féminine, quoi, tu vois, d'ouverture, etc., quoi.
Ouais, bah oui.
C'est un drôle de mix, hein.
Ouais, ouais, bah il est très comme ça, en fait. Mm. Il est très comme ça. Après, mon père, c'est un... Il est PDG d'une entreprise, il a une science du management extraordinaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il a conçu mon éducation. C'est vraiment du management. Il a tout géré, il a tout calculé. Avec de l'intelligence, en fait. Moi, je pense qu'il a mis... Il y a évidemment beaucoup d'émotions là-dedans, etc. Mais c'est pas ce qu'il a mis au premier plan. Ce qu'il a mis au premier plan, c'est l'intelligence. Il dit, c'est ça qu'il faut développer, l'indépendance. Il a essayé de faire de moi un soldat, en fait. Et de mon frère aussi. Je pense que c'est ça.
Soldat de... La solde de quoi?
De valeur, en fait. De mon propre bonheur, ou de ma propre réussite, de mon propre accomplissement. Mais il nous a formés pour être... pour qu'on ait besoin de personne, en fait.
Et ça a jamais coincé avec ton désir de carrière, de devenir humoriste, que bah, tu racontes aussi dans l'interview d'Antonin, où en fait, quand t'avais 15-16 ans, ton père, il t'a dit « Ok, tu veux être humoriste, bah, je t'envoie à Montréal, et tu vas bosser sur un festival d'humour, et bah, tu vas apprendre, sors-toi les doigts si tu veux le faire. »
Tu vas pas bosser, tu vas être bénévole.
Oui, tu vas bosser bénévolement.
Bah, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est et c'est là où il est très très fort. Il a entrepris la démarche lui-même. Il s'est débrouillé pour avoir un contact avec une tante que j'ai là-bas. Et une fois qu'il avait le contact, il est venu me voir et il m'a dit bon, est-ce que ça te tenterait? Mais dans ce rapport-là, je suis obligé de à ce moment-là, même si ça me fait peur, même si je suis jeune, même si, je suis obligé de dire oui. Je suis face à quelqu'un qui m'a toujours mis face au défi. Et là, il me dit bah là, il y en a un. T'as envie ou t'as pas envie? Ça a toujours été ça en fait. T'as envie ou t'as pas envie? Après, c'est toi qui vas te mettre la pression, c'est pas moi qui vais te la mettre. Et donc, finalement, évidemment, j'accepte. Et lui, il a l'intelligence d'esprit et même le recul, parce que pour des parents, c'est difficile. Envoyer ses enfants seuls, super loin. Mais il y a cette confiance aussi, il y a ce truc-là de « je te fais confiance ». En fait, c'est toujours ça qu'il a fait. Il m'a dit « écoute, je te fais confiance, maintenant me déçois pas ». Mon père, c'était très dur le fâcher, mais alors le décevoir. En fait, c'était ça la plus grande pression. Il a pas fait en sorte qu'il puisse me gronder, on n'était pas dans ce rapport-là, on a essayé d'avoir un rapport adulte très tôt. Mais par contre, c'était possible de le décevoir. Et ça, c'était inconcevable, tu peux pas le décevoir. Donc il fallait être fort. Et donc il m'envoie là-bas et il fait en sorte que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai décidé. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort. Parce que lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a pas dit tu vas y aller. Il m'a dit est-ce que tu veux y aller? Et moi, je dis oui. Ben, il m'a dit bah, écris le mail. Je dis ok. Puis là, je lui ai dit moi, je vais proposer d'être bénévole. Je dis parce que si je propose d'être bénévole, c'est sûr ils vont accepter. Puis donc, il a dit, ok. Puis là, on envoie le mail et finalement, ils acceptent. Il me dit, ok, bah, vas-y. Donc, c'est fou, quoi. Il m'a mis dans des situations où j'allais. En fait, il a essayé de trouver pour moi les meilleures écoles. Il a essayé de voir un peu quelle forme d'intelligence j'avais ou quelle forme de, je sais pas, de choses je voulais dans ma vie. Et il m'a dit, bon, bah, c'est quoi les meilleures écoles? Et il a rapidement compris que pour ce que je voulais faire dans la vie, les premières écoles, c'était pas des institutions. C'était des expériences. Donc, il m'a mis dedans. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on verra. Ça, je trouve que je trouve ça très fort, en fait. De sa part. Parce que pour moi, je vais juste suivre, quoi.
Donc, tu fais un peu plus que juste suivre, quand même.
Bah non, moi, je pense que ça fait que peut-être 6 mois, 8 mois que ce qui m'arrive, c'est mon mérite. Avant ça, c'est un peu plus celui de mes parents.
Ah bon?
Je pense que c'est mon éducation qui m'a amené là où j'en suis arrivé jusqu'à l'année dernière. Et à partir d'à peu près l'année dernière, c'est là que je suis devenu en mode, ok, là, il faut que je prenne les rênes pour moi. Mais avant ça, je pense que j'étais juste le résultat d'une éducation.
Oui, t'es une sorte de robot programmé, dire.
Un peu. Mais très programmé, y a rien de péjoratif là-dedans.
Oui, j'entends. Oui.
Mais dans le sens où c'est eux qui avaient le mérite. C'est eux qui avaient construit ce qui a fait que j'arrive là. Mais arrivé à un moment donné où, bon, c'était à moi de le faire et ça, c'est très récent.
Elle est comment ta mère par rapport à ton père?
Oh là là, c'est deux. Ça aussi, c'est un des grands mystères de ma vie. Ma mère, c'est une. Mais c'est une génie dans son domaine aussi, mais c'est juste que son domaine, il est super chelou.
Elle fait quoi?
Ma mère, c'est une spirituelle de ouf. Donc j'ai mon père extrêmement cartésien, mais avec une grande dose de spiritualité aussi, mais très management, 3, carré. Et ma mère, déjà mon père parle très peu, ma mère, elle parle, elle rit, elle a un rire incroyable, elle est marrante à mort. Puis elle est super spirituelle, vraiment, elle est très passionnée par... J'allais dire l'ésotérisme, mais ça met toujours quelque chose d'un peu... Mais c'est ces sciences-là, en fait. Et elle est impressionnante. Elle a une capacité d'écoute extraordinaire. Elle est marrante, elle est au service des gens. Ma mère, sa vie est au service des gens. C'est vraiment assez impressionnant à observer.
Et du coup, elle a pas ce côté que ton père a où il montre que certaines facettes de lui-même parce que...
Ah, ma mère, non, elle est transparente. Mais elle est transparente, mais c'est impossible de tout comprendre, en fait. Parce qu'elle est trop loin. Enfin, c'est étonnant, mais faudrait la rencontrer. Mais elle est trop loin. Elle te lit, en plus. C'est-à-dire qu'elle est transparente, mais elle voit plus en toi que toi tu vois en elle. Ça qui est... Donc tu dis, ah, elle est transparente, je la vois, mais elle voit tout. Elle voit tout. Si elle veut discuter avec toi, oh là là. Tu l'as au téléphone une heure, elle peut te faire chialer. Ouais, elle est vraiment étonnante. Elle a les mots justes, elle est très très forte, puis très marrante.
Donc pour toi, en fait, t'es un peu le... t'es un peu la résultante de ces deux, de ces deux personnalités très, très différentes, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma mère, elle a aussi cette espèce de, je sais pas, elle suit le flow beaucoup. Elle a cette espèce d'ambiance de, elle joue avec le hasard, ma mère, et ça marche. Elle joue des coïncidences. Elle joue du karma. C'est étonnant à dire. Mais c'est comme ça que ça marche avec la vie de ma mère. Elle y va avec de l'instinct. Énormément d'instinct. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand je me suis retrouvé seul.
Quand tu t'es retrouvé seul?
Quand je suis arrivé à Montréal tout seul, ça m'a beaucoup aidé, en fait.
Il y a cette anecdote où tu racontes que tu restais tard le soir pour nettoyer les loges.
Ouais,
tu tombais par hasard sur Baptiste Le Caplain, c'est ça?
Exactement. Et puis finalement, il me met sur un bout de papier trois endroits où je jouais à Paris et puis je reviens. Et puis il m'en est arrivé. Mais là, à ce moment-là, j'étais seul, mais je travaillais tout le temps. Puis j'avais ma tante là-bas aussi, mais je travaillais tout le temps. C'était différent. J'étais là qu'un mois. Mais quand je suis retourné à Montréal après à 18 ans, je suis arrivé tout seul. Et je savais pas quand j'allais revenir en France. Donc là, t'as 18 piges, t'es tout seul, tout seul. Et là, je sais que mon éducation a été extrêmement précieuse. Notamment la science de l'instinct de ma mère, de se dire, nah, les choses, elles s'enroulent toutes seules, en fait. Les choses, elles prennent du temps. Même, c'est pas parce que tu les comprends pas maintenant qu'elles ont pas de sens. Il faut les suivre, il faut les accepter. Il y a une forme de résignation, en fait. Et après, tu te retournes derrière et tu dis, ah voilà, tout ça, ça s'aligne, en fait, c'est cohérent.
Je pense pas qu'on l'ait précisé, mais t'es allé à Montréal pour faire l'école du stand-up.
Mais en fait, l'école de l'humour
de
à Montréal.
De l'humour, pardon.
Mais à la base, je voulais pas la faire. Mais ça, c'est pareil, c'est marrant. Quand je rentre de Montréal la première fois, donc j'étais assistant de production au Festival Juste pour Rire, bénévole. Là, je retourne à Paris. Et on m'avait parlé à ce moment-là d'une école nationale de l'humour. Et je vais me connecter sur Internet, voir à quoi ça ressemble. Puis donc, je vois des gens qui ont gradué, que des noms que je connais pas. Je me mets à regarder des gens les plus connus. Je me mets à regarder de l'humour québécois encore. Je dis, putain, ils sont forts quand même, très forts. Et finalement, je me dis, ouais, mais est-ce qu'une école peut vraiment t'apprendre à être marrant, très prétentieux? Et finalement, j'arrive là-bas et je suis à l'université. J'y vais jamais. Et finalement, je commence à faire de l'humour. Et l'école de l'humour s'impose, en fait. Elle est arrivée un peu par hasard.
Ah, t'es retourné là-bas?
Ouais, je suis retourné là-bas quand j'avais 18 ans.
Mais
pas pour l'école de l'humour. Je suis retourné là-bas pour vraiment... J'étais à l'université là-bas, en écriture de scénario.
Ok, ouais. D'accord.
Et vraiment, mais bon, on savait que les études, c'était pas pour ça que j'y allais. Mon père, il savait, j'avais déjà commencé à aller jouer dans les clubs à Paris quand je passais mon bac. Et en première terminale, j'allais jouer dans les soirées d'humour. Il savait qu'à ce moment-là, l'école, je le faisais pour lui, en fait. Je le faisais pour eux. Et donc, il m'envoyait là-bas pour être tout seul, loin, dans un endroit où il y avait un gros circuit de l'humour, où j'allais devoir être un adulte très tôt.
Ah, c'est lui qui t'a dit, tiens, retourne.
Bah, pareil, en fait, la même chose.
Oui,
il m'a reproposé. Il m'a suggéré, moi j'ai accepté. On me dit aujourd'hui, il fallait du courage. Je dis non, il fallait dire oui, c'est tout. Il m'a proposé, il m'a dit on y va. J'ai dit, mes autres options, c'était quoi? Aller dans un IUT technique, je sais pas où. Je disais, mais non, moi l'école, je voulais tous ces formes-là. Je disais, mais non, laissez-moi écrire, laissez-moi dire ce que je pense, en fait. Laissez-moi essayer d'avoir des choses à dire plutôt que me répéter ce que des gens y disent. En réalité, en fait, je passais des heures dans une salle et je m'en battais les couilles à un niveau. Et j'en avais marre, en fait, parce que j'avais pas l'impression d'être stupide et j'avais des bonnes notes. Je disais, mais c'est pas pour moi, ils sont en train de me tuer ici. Moi, je veux être libre, en fait. Je veux pas apprendre comme ça. Je veux apprendre en faisant des choses, avec de l'expérience. C'est comme ça que je veux apprendre. Et donc, j'arrive à Montréal et l'école, c'était Montréal. C'était pas l'université. Moi, je me souviens, oh là là, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. J'avais commencé à pu y aller parce que ça me saoulait. Et là, je réalise qu'il y a un examen le lendemain. Il fallait lire 30 livres. J'avais acheté les 30 livres. Puis j'en avais lu aucun. Puis il fallait faire un espèce de rapport sur tous les livres. J'étais comme, oh là 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 là. Puis là, j'étais encore un peu attaché, j'étais encore un peu persuadé que c'était important pour moi, ou que c'était sérieux l'école dans ma démarche. Et je dis, bon, ben, on va le faire. Et j'ai ouvert, j'avais les 30 livres devant moi, et j'ouvrais des pages au hasard dans le livre. Je prenais... Je te jure que c'est vrai. Je lisais des passages, je lisais trois pages, et dès que je trouvais personnellement une phrase que je trouvais jolie ou un peu intéressante, je la prenais et je la mettais dans le texte. Et là, j'avais toutes mes phrases et j'ai brodé autour. J'ai dit de la sauce, mais de la sauce. C'était que de la rhétorique. C'était que de l'art du mot. Il n'y avait pas de fond, pas de sens, pas de rien. J'ai fait avancer rien. Walou, rien. Rien de sérieux. J'ai eu A. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais si je m'inflige ça comme autorité dans ma vie, je vais aller nulle part. Je sais que j'ai mis du vent. Ça vaut pas A, je le sais. Je vais pas laisser eux me juger de mon travail si c'est de la merde et qu'ils trouvent ça beau. Tu vois, je vais aller ailleurs, moi. Et donc, c'est là que j'ai arrêté d'aller à l'université. Ce A-là, il m'a tué. Je disais, non, mais c'est pas pour moi. C'est pas vrai. Je mérite F. La dernière note. C'est ça que je mérite. J'ai rien fait. Et donc, je suis parti. Et donc, finalement, après, j'avais des problèmes de visa parce que j'étais allé à aucun de mes examens la session d'après. Donc, j'allais me faire renvoyer en France. Sauf que je commençais à bien jouer à Montréal. En tout cas, je pensais que c'était, je commençais à bien jouer parce que plus t'avances, plus tu réalises qu'à quel point il y a des étapes. Mais ça commençait à marcher. Et donc, j'ai dit, non, il faut que je reste ici et que je fasse des blagues. Et donc là, avec beaucoup de rencontres, notamment Adi Balkhalidé, un humoriste extraordinaire, il me dit, va faire l'école. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à y trouver? Il m'a expliqué. Et je me suis dit, ah bah ça, je le veux.
Et tu as appris quoi comme leçon, du coup?
À travailler, être un professionnel. C'est vraiment ça, à chaque fois que je dis, à vraiment être sérieux. De la rigueur, de la vraie rigueur.
Mais t'étais déjà sérieux, non?
J'étais sérieux dans ce que je voulais. Et malheureusement...
C'est ce que tu voulais faire.
Ouais, je voulais faire des blagues, mais bon, à ce moment-là, c'était le début, en fait. Mince, j'ai mis du café partout, je suis navré.
C'est pas très grave.
Mais c'était le début, dans le sens où t'as beau être sérieux, tu joues une fois tous les trois mois, t'es très moyen. Y a beaucoup de vide dans ta vie. Alors oui, t'es sérieux, mais c'est le début. Donc, aussi sérieux que tu sois, t'as rien fait encore. C'est pas parce que toi t'es sérieux que ce que tu fais c'est sérieux, de ce que je veux dire. Donc, moi j'étais sérieux, mais ce que je faisais c'était pas encore sérieux. Ça l'est devenu après.
C'est quand les premières fois où tu t'es dit là, ce que j'ai fait c'est sérieux, j'ai bien bossé.
Ça évolue bien. À chaque fois. Comme je disais avant, il y a plein de fois où je me suis dit ok, là c'est bon, là c'est sérieux. Puis là il y a un an qui passe, tu dis oh, non, c'était pas sérieux. Là ce que je viens de faire là c'est sérieux. Puis c'est avant en fait, tu le réalises. C'est avec la pression qu'on te met sur les épaules. Moi je me souviens, la première pression qu'on me met, c'est je dois animer une soirée chaque semaine. C'est la meilleure soirée d'humour à Montréal. Je suis encore à l'École nationale de l'humour. Personne n'a jamais fait ça. C'est une soirée que beaucoup de gens veulent reprendre. Il y a beaucoup de public. Il faut que j'écrive un nouveau 15 minutes. Personne me connaît. 15 minutes chaque semaine. Et là, le gars, il me dit, je veux que ce soit toi qui reprends. Là, je me dis, bon, là, ça devient sérieux. Et là, la première chose qu'il fait, et je le remercierai encore à vie, mais le show est à 20h. Il m'appelle à 18h. Et il me dit, ouais, ce soir, c'est toi qui me remplace. T'acceptes ou t'acceptes pas? Comme le truc de mon père. Je peux dire non à ce moment-là, parce que je me chie dessus. Mais j'ai pas le droit de dire non avec mes ambitions. Donc je dis, non, on va choisir de chier dessus. Et donc évidemment, moi je veux tenir la face en plus. Ce gars-là, c'est un humoriste que je trouve super drôle. Il a 3 ans d'avance sur moi, il est génial. Il me fait l'honneur de me donner cette pression, en fait. Cette pression qu'il me donne, c'est un honneur. Et donc je me dis, ouais. Et là, je raccroche et je suis en cours encore à ce moment-là. Tous les autres de ma classe, c'est un truc dont ils pourraient rêver. Moi, je le dis pas. Je transpire comme un fou. Je le dis à personne. Et je me dis, mais comment je vais faire? Et là, j'arrive le soir. Tous les autres, ils s'attendent à voir leur animateur star. C'est la présentation, c'est encore son nom. C'est des présentations enregistrées. Je te jure.
Oui, Michel Drucker. Rendez-nous Michel Drucker.
Votre animateur, Mehdi Boussaïdan. Allez voir d'ailleurs, il est génial. Mehdi Boussaïdan. Et là, c'est moi qui arrive. Tout le monde qui est comme, c'est qui? Là, j'ai 15 minutes où je dois être marrant. Oh là là, oh là. Et là, finalement, il me refait le coup, 2 semaines plus tard. Et finalement, je reprends la soirée. Et chaque semaine, je dois écrire. Et je me dis, c'est sérieux. Et finalement, à un moment donné, ça devient ta routine. Donc, t'es capable de le faire. Et là, finalement, on me dit, bon, bah là, ce soir, tu fais un gala à la télé. Je dis, ah ouais. Ah là, c'est sérieux. Et là, on me dit, là, tu vas être chaque semaine à la télé avec du nouveau que tu pourras pas essayer. Ah là, c'est sérieux. Et là, on me dit, là, tu dois animer un gala. Et là, tu dois remplir une salle. Les gens doivent se déplacer pour ta gueule. Et tes qualités a de l'influence sur le business de plein de gens. Pas que ton business. Tu mets dans ton bateau plein de gens. qui mettent de l'oseille, qui mettent des trucs, qui ont des costards, qui ont des cravates, qui ont des diplômes, qui ont des lunettes.
Ils ont des lunettes,
les mecs. Ils ont des lunettes, les mecs. Et ils sont dans le même bateau que toi. Donc là, tu te dis, ah non, c'est sur mes épaules. C'est partagé sur leurs épaules aussi, mais c'est aussi sur les miennes. Tu te dis, ok, là, c'est sérieux. Là, c'est. Et donc, à chaque fois, ça avance, je pense. Je pense que ça s'arrête jamais. Si tu penses à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai fait le truc le plus sérieux de ma vie, et après, il n'y en aura plus, t'es cuit. Faut abandonner ça. Il y a toujours un truc où tu te dis, bon, non, là, c'est plus gros que ce que j'ai jamais fait avant. Et je me chie dessus. Mais il faut y aller. Faut y aller.
Ça s'est passé comment le retour en France ? Est-ce que t'étais forcé de revenir ? Est-ce que t'as choisi ?
Non, c'était le timing. J'avais fait quelques années à Montréal, j'avais développé du niveau, j'étais devenu confortable à Montréal. J'avais travaillé très fort pour l'être. Et une fois que je suis devenu confortable à Montréal, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fout maintenant ? Parce que ne pas être confortable et chercher à l'être, c'est ça qui m'a fait progresser fort. Bon, bah, il faut un autre défi. Donc, quand j'étais en France, le défi, c'était aller se faire une place à Montréal. Et une fois qu'on s'est fait une place à Montréal, on s'est dit, bon, bah, le défi maintenant, c'est se faire une place en France. S'il est là. Donc, bon, bah, comme à chaque fois, on lance les dés. On se dit, bon, bah, voilà. Et on est retourné ici. Après, moi, j'ai été très aidé. Il y a Kian Kojandi, évidemment. C'est sous son impulsion que je suis revenu en France. C'est lui qui a un peu mis ça dans ma tête aussi. Mais dis, reviens peut-être, non ? Et je dis, t'as peut-être raison. Puis une amie aussi. Une amie aussi qui m'a dit, ouais, tu devrais, je pense. Puis toute mon équipe aussi. On avait toute une équipe à Montréal à ce moment-là où on avait tout fait ensemble. Et c'était difficile de se séparer. C'était super difficile. Mais on s'est dit, ouais, non, c'est le timing. Et donc, je me suis retrouvé tout seul ici. Évidemment, on est resté en contact, on a tout fait. Puis après, je suis retourné à Montréal 6 mois. Et là, après, on s'est dit, bon, bah là, on part en mission France, vraiment. Il y a eu une année où on était entre deux. J'ai fait 6 mois à Paris, puis 6 mois à Montréal. 6 mois de, bon, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut semer des graines et voir ce qu'on peut faire? Et finalement, là, depuis septembre, on est revenu sérieusement. Ouais.
Wow. Pour reboucler un peu avec le sujet de masculinité, parce que c'est super ce que tu racontes tout ton parcours, je n'avais pas tous ces détails-là. Je trouve que t'as une façon de te fringuer sur scène qui est loin d'être dans les standards, surtout de ce qu'on voit en général des mecs qui montent sur scène, si tu veux, où c'est jean basket, t-shirt noir. Toi, t'arrives et t'es là, bah, tu vois, t'as...
Ouais, ça dépend, on essaie de varier. On essaie de varier, mais j'en ai joué beaucoup.
Donc là, par exemple, t'as un t-shirt Lego.
Ouais.
Faut expliquer. T'as un t-shirt Lego.
Ouais, y a pas trop d'explications. Ouais. La réalité, c'est que ce matin, j'étais en galère parce que j'ai pas dormi chez WAM.
Ouais.
Je me suis dit, bon, je vais arriver, il faut que j'ai un t-shirt. À côté, il y avait un magasin, je suis arrivé, je dis, bon, lequel, il est à peu près joli. Le Lego, il est pas mal. J'ai pris le Lego, je suis venu. C'est un peu ça toujours. Pendant longtemps, j'ai beaucoup joué avec les vêtements parce que je voulais qu'on me remarque. J'ai réalisé que si j'étais, en fait, il fallait que je donne des outils aux gens pour qu'ils se souviennent de ma gueule. Et donc, et j'aimais beaucoup m'habiller bizarre. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est aussi en rapport avec le truc qu'on disait. Je voulais me faire remarquer. En général, bon, ça c'est un truc. Faudrait que j'aille voir mon psychothérapeute. Mais bon, il y a toujours une volonté un peu de se démarquer ou du moins d'exister, d'être intéressant. Mais
tu montes sur scène, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a un truc déjà de base.
Thérapie. Voilà.
Bah ouais, c'est ça. Il y a un truc à aller creuser, mais bon, peu importe. Et donc j'ai beaucoup joué des vêtements pendant longtemps pour donner un peu un outil aux gens pour me. Et puis c'était une manière aussi pour moi d'assumer plein de choses. En fait, c'était une manière aussi de me rajouter une pression. Quand j'arrivais sur scène, il m'arrivait d'arriver sur scène avec des longues tuniques indiennes qui arrivaient jusque là. J'ai déjà mis des robes sur scène, mais des robes, pas je suis déguisé en femme. Des robes que je porte de manière masculine, dans le sens où ça a été essayer de... Ça a été aussi des épreuves de dire, est-ce que je suis capable... Est-ce que, en fait, je suis quelqu'un indépendamment de l'image que je projette. Et donc, on a joué beaucoup avec ça. J'ai cherché plein de trucs. À un moment donné, j'avais plein de bijoux. À un moment donné, j'avais des longues tuniques. Ça a été très bizarre. Et maintenant, maintenant, j'improvise un peu tout le temps. J'essaie toujours de mettre des trucs. Je mets ce que j'aime, en fait. Très souvent, je vais m'habiller chez le rayon femme, très souvent, parce que je crois pas trop à ces histoires-là.
Mais t'arrives à rentrer dans,
ouais,
dans les
frères. Ah, on a une taille parce de mannequin. Grand, ah non. Ah, on a un corps. Les femmes en rêvent. Mais elles en rêvent pour elles, tu
non,
vois.
Mais, non,
elles
mais
en
t'es
rêvent
grand.
Pas pour.
T'es grand.
On est grand, on est fin, élancé. Voilà. Ouais. Le visage, non, mais le corps. On a un corps de femme. Ah ouais.
Pourquoi
corps
tu de parles femme. De toi à la troisième personne?
Parce que c'est du travail collectif, ce corps-là.
Qui a bossé dessus à part toi?
Tous les gens qui l'ont regardé. Tous les gens qui l'ont regardé, à chaque fois dans leur regard, je me suis dit non, il faut changer quelque chose dans ce corps-là. Ou du moins, je vais décider ce que je veux voir dans leurs yeux. Pendant longtemps, j'ai décidé que ce serait l'incompréhension, parce que je trouve ça intéressant, c'est facile à dealer. T'arrives et tu vois l'incompréhension, tu te dis c'est bon, moi ils sont tous d'accord. C'est l'incompréhension, puis c'est moi qui l'ai décidé. En fait, pendant longtemps, je voulais décider ce que les autres y voyaient. Et là, maintenant, je suis en mode, ouais, j'ai décidé de m'en battre les couilles de ce qu'ils voient. Plus. Ou du moins de m'en amuser un peu.
Ouais. Est-ce que t'avais des complexes en grandissant ou maintenant?
Ouais, bah oui, oui, bah oui, forcément. Moi, j'ai un frère, mon grand frère, rugbyman, très musclé, très beau, très marrant. Moi, j'arrive là-bas, je suis chétif. Pas particulièrement beau. Quand j'étais adolescent, oh là là. Moi, j'ai vécu un des trucs les plus difficiles, je pense, que tu peux vivre. Non, c'est pas. Je veux dire, pour les complexes. C'est quand j'étais enfant, très jeune, j'étais très mignon. Vraiment très, très, très mignon. La resta des enfants. Et l'adolescence est arrivée. Et une laideur. J'étais d'une laideur, je te jure. Mais j'étais sympa. En fait, j'étais cool, tu vois. Parce que j'étais sympa, j'avais un grand frère qui m'a toujours tiré vers le haut, donc j'étais cool. J'avais de la conversation, j'étais marrant, j'étais cool. Mais qu'est-ce que j'étais laid. Et c'était une période où le physique importe beaucoup dans la manière avec laquelle tu te construis, etc. Tu vois. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu être marrant dans ma vie. Parce que c'était ma manière d'exister. Mais laid, grand, voûté. Un grand nez. En fait, moi, je pense que j'ai le genre de visage qui peut redevenir beau si j'ai un peu de schneck vers 50 piges. Je te jure, vers 50 piges. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vers 50 piges.
Je pense que tu seras un vieux beau.
Ouais, moi, je pense qu'il me faut. C'est pour ça que je bois beaucoup. Je pense qu'il. Tu vois, je peux être ce beau mec de 50 piges, un peu borderline alcoolique, qui fume, et tu te dis, ouais, mais il est torturé, mais il est beau. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Mais t'es beau, en vrai, maintenant.
Ah non, vous rigolez. Non, non, j'ai réussi à faire croire que je l'étais. Et ça, non, si je te jure. Je te jure.
Comment tu fais croire?
C'est, je pense
que
tu peux.
Il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire waouh, j'ai envie d'avoir le secret.
Non, mais tu peux. C'est comment tu dégages quelque chose en fait. Je pense que c'est une manière avec laquelle tu l'assumes en fait. Moi, j'ai préféré essayer d'être à l'aise avec ça en fait. De me dire que oui, quand tu me vois, t'as pas le coup de foudre physique. Je dis ok. Mais bon, on peut faire autre chose en fait. On peut essayer d'être beau autrement. On va jouer avec nos cartes en fait. On va essayer de la chercher autrement la beauté. Bon bah je sais pas. On va en jouer. On va essayer d'être un peu intéressant. On va essayer de comprendre déjà qui on veut séduire. Si on est dans une volonté de beauté, c'est dans une volonté de séduire. Bon, bah, on va essayer de séduire, alors. On va essayer de savoir un peu comment parler, comment se tenir, comment, je sais pas. C'est ça qu'on va essayer de faire.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dégager quelque chose. Je pense que c'est plus intéressant à terme. Parce que quand t'es au collège et tout, t'es laid, bon, t'as pas beaucoup d'autres armes. T'en as pas beaucoup. Tu peux être très fort et tout. Il y a des gens qui arrivent à déjà être très fort, à être laid, très séduisant. Des gens qui le comprennent très tôt. Mais c'est difficile parce que je pense que beaucoup de gens sont sensibles à la beauté physique à ces âges-là. Mais plus tard, les gens ont eu leur expérience. Ils ont été déçus par des gens très beaux, ils ont été séduits par des gens très laids. Là, c'est plus mix dans leur tête. C'est plus. Ils vont chercher plus que du physique. Et c'est là où nous, les mi-beaux, mi-laids, on a une carte à jouer. C'est là où nous, on peut devenir intéressant. Donc après, tu sais, tu grandis, t'arrives à séduire des femmes que tu trouves beaucoup trop belles pour toi et tu gagnes en confiance. Et voilà. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. En fait, j'ai réalisé aussi que être beau, c'est pas forcément un cadeau. J'avais des amis très beaux et ça leur a pas rendu service. Ils sont toujours très beaux en plus, mais ça leur a pas forcément rendu service sur tous les aspects. Déjà parce que, je sais pas, on leur donne trop d'attention. On est trop gentil avec eux. Il y a quelque chose de.
Tu penses que de ce fait-là, ils vivent pas assez d'épreuves pour.
Mais ils les vivent différemment en fait. Ils vivent d'autres épreuves. Ils vivent beaucoup de jalousie aussi. Putain, beaucoup de jalousie. Ça c'est relou. On leur parle que de leur physique. S'ils sont très forts pour autre chose, leur physique va toujours upstager. Ça doit être très difficile, très difficile. Moi, je connais un humoriste, par exemple, à Montréal. Il est très, très beau. C'est vrai. Il est très très drôle aussi. Sinon, il serait pas humoriste. Sinon, il remplirait pas des salles. Et ben, les gens sont incapables de dissocier sa beauté de son succès. Les gens comme moi, putain, jamais on va mettre mon physique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le physique, t'as peu de mérite dedans, en fait. Évidemment, ça s'entretient. T'as ce mérite-là, ça s'entretient et tout. Mais quand tu vois des gens qui travaillent très fort et qui ont beaucoup de succès et que tu mets leur beauté devant, ils se disent, putain, mais je suis pas, tiens, prends-moi pour autre chose aussi. Donc ça a ses qualités, ça a ses défauts. Moi, je sais pas. Au final, j'ai fait la paix avec tout ça. Je me dis, oh, je suis dans un entre-deux qui me plaît. Je suis pas beau, donc on me casse pas la tête pour ça. Et je suis pas laid au point que quand tu me vois, tu te dis, il y a aucune chance, même s'il parle qu'en alexandrin. Donc ça va, tu vois.
On a déjà parlé avec ton frère de ça, parce que tu dis que ton frère, il est rugbyman, très musclé, très beau.
Non, parce que ça a été... Il n'y a pas de jalousie du tout avec mon frère. Non, ça a été... Non, ça m'a tiré vers le haut, encore une fois.
Non, sans parler de jalousie de ton côté, mais de... En fait, vous avez des expériences différentes.
Ouais, j'ai compris que je devais jouer sur d'autres armes. Et puis aussi, il y a comment... Parce que aussi, je parle de ça avec mon frère. Il y a comment lui, il l'a vécu, il y a comment moi, j'ai vécu mon frère. Mon frère, il peut me dire, mais attends, mais moi, j'étais pas le plus beau de mon truc. Tu vois? Moi, il y avait des mecs plus beaux. Moi, j'ai dû faire ça. J'ai dû, tu vois? Donc lui aussi, il doit avoir ce combat-là à l'intérieur. C'est quelque chose que tout le monde vit. Donc, c'est plus l'image qu'il avait pour moi que l'image qu'il avait réellement dans lui, son cercle social. Donc, ça sert à rien d'en parler. C'est plus d'en parler avec lui. Puis on partage d'autres choses.
Partager quoi, par exemple, avec ton frère?
Ah, très drôle. On se parle, étonnamment, on se parle assez rarement. Parce que c'est pareil, on se fait confiance, en fait. On se tient au courant par ma mère ou quand on se voit. Mais il est très marrant, mon frère. Très, très marrant. C'est un fêtard. Il a suivi beaucoup plus le chemin de mon père. C'est un mec en chemise et costume, tu vois, aujourd'hui. Mais il a la classe, il est marrant, il est très généreux. Il a quelque chose de très accueillant, très avenant. Là où moi, je suis peut-être plus mystérieux, fuyant, un peu plus... Au final, c'est moi le plus timide des deux, je pense. Il a quelque chose de... Ouais, il aime les festins, on fait de la bouffe, on partage, on mange, on se réunit. Il a ce truc-là.
T'as utilisé le terme festin quand même.
Ouais. Moi, parce que je me moque de lui, il a pris du poids là depuis quelques temps. Mais ça lui va bien, en vrai. Ça représente son caractère un peu. C'est un mec qui fait des câlins, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un peu plus autiste, moi. On me touche un peu. Ça m'irrite, j'aime pas trop ça.
T'aimes
moi.
Pas trop qu'on te touche.
Non, ça, il y a des bruits, il m'énerve aussi. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est dans l'accueil, dans le, tu vois. Moi, je suis plus comme, tu sais quoi, viens, on se touche pas trop, tu vois. On peut, évidemment, ça me dérange pas. Mais par exemple, dans le métro, je peux, tu vois ce que je veux dire? Ça m'oppresse. Il y a des sons qui, plus solitaire, moi, plus dans ce truc-là. Mais de là, ça fait un échange intéressant. Puis il a été très, ça a été une troisième autorité pour moi. Un modèle, le gars, c'est un guerrier aussi. Puis moi, en plus, il y a un truc qui est fou, c'est que mon père a, comme mon frère, une énorme capacité de travail. Ma mère et moi, on est plus les chillers. On est un peu des glandeurs.
Toi aussi, tu bosses de ouf.
Mais je bosse de ouf, mais dans un truc.
Ok.
C'est déjà plus
le
que
reste, je suis un peu un glandeur. Dans le sens où c'est un semi-glandage. Je vais rien faire beaucoup. Tu vois. Les hobbies, non. Je vais pas faire de hobbies. J'ai la flemme. Je vais pas m'investir d'énergie dans quelque chose si je pense pas que je suis capable de. Déjà, si je pense pas que je vais être capable d'être très fort. Tu vois ce que je veux dire? Si ça va pas être un enjeu fondamental de mon existence, ça va pas être une énorme pierre à l'édifice de genre ma vie, je vais pas mettre d'efforts dedans. Les hobbies, les nananas, non, j'ai pas le temps. Je vais rien faire là. Rien faire du tout.
Donc
je vais être
pas...
en terrasse, c'est tout.
T'as pas de hobby quoi?
Walou, rien, je fais des blagues, c'est tout. Et le reste, je parle avec des gens. C'est vraiment ça. Le reste, je parle avec des gens. Voilà, c'est tout.
Tu joues pas aux jeux vidéo?
Jeux vidéo, je regarde les autres jouer.
Ouais.
Ou alors je joue que à FIFA. Mais c'est pareil, c'est un prétexte pour parler avec les gens.
Oui.
Je jouerai pas à FIFA tout seul.
C'est un truc. Oui, ok.
Je vais jouer à FIFA si je suis avec Lamine, par exemple, mon manager, et on est là et on tape des barres. Et en vrai, on joue juste pour se moquer de l'autre ou lui dire je vais t'éclater. Puis voilà. Mais sinon, je regarde, j'ai un autre gars avec qui je suis très souvent, qui lui joue beaucoup à des jeux et je le regarde jouer. Ça m'amuse. Mais c'est juste pour parler, encore une fois. Mais le reste, non.
Ta vie amoureuse, elle ressemble à quoi?
Oh là là. Oh là là, ma vie. Oh là là. J'ai réalisé. Ça m'a pris du temps. Écoute la phrase. Je pense que je suis l'homme et la femme de ma vie.
Ah.
Ouais, non, je pense que je suis marié au célibat. C'est pas pour moi. Non. Non. Je sais pas, j'y réfléchis beaucoup, hein, mais je pense que j'ai beaucoup trop de. Non. J'aime le changement déjà.
Ouais. T'aimes changer de gens avec qui tu traînes, c'est
ouais,
ça?
Ouais, bah là, je change de rien à rien. On est dans ce genre de phase en ce moment. Mais bon, ça va changer. On travaille pour que ça change. Mais je sais pas, il y a un truc de, ouais, il y a un truc de changement, déjà. Et puis, il y a un truc, c'est tellement mal, ça.
Tu veux dire que t'arrives pas à choper des meufs, en étant drôle comme ça, quoi?
Non, mais tu peux séduire. C'est pas ça la question. Mais j'ai un problème très grave. C'est que je suis un peu un enfoiré. C'est curieux. En fait, je trouve pas.
Mais ça vient. Mimi, elle est en train de se redresser.
Attends,
là, d'un coup d'un
mais ça vient.
Ok, une question.
Ça vient du truc dont on parlait avant, que j'étais très laid quand j'étais jeune. Et je pense, en fait, moi, je pense que finalement, j'ai beau me mentir, je suis tombé amoureux de plusieurs filles quand j'étais au collège et elles m'ont brisé en 20 000. Et moi, ça me fait très très peur maintenant, en fait. Je pense que j'ai pas envie d'y aller. Moi, j'ai plus jamais envie d'être vulnérable comme ça devant quelqu'un. Jamais je vais donner à quelqu'un l'opportunité de me briser émotionnellement. Plus jamais. Ça n'arrivera pas. Je préfère être seul, triste ou partager qu'une infime partie de ce qu'on pourrait partager. Je peux plus mettre ça dans la balance. Du moins, j'ai pas envie de le faire. Et j'ai jusqu'à maintenant pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, les demoiselles, ce qu'elles demandent, elles demandent un minimum d'investissement. Je ne l'ai pas. Et je ne le mettrai pas. Aussi mignonne sois-tu. Donc, et je mens pas.
Quand tu dis de l'investissement,
je mens pas pour baiser, en fait.
Oui, ça.
Si je sens que la demoiselle, il y a un peu d'attache émotionnelle, je veux dire, écoute, je pense pas que c'est une bonne chose. Et puis, il y a un autre truc. C'est que je mélange beaucoup égo et sentiment. Je pense que malheureusement, j'ai trop d'égo mal placé. Dans le sens où, à partir du moment où une fille, je vois que je lui plais, il y a quelque chose qui me séduit plus. Mais c'est parce qu'en fait, elle me plaisait pas forcément à la base, cette fille-là. C'est juste moi qui en ai fait une image dans ma tête. En fait, dès que je vois une fille arrogante, ou qui a l'air arrogante, c'est même moi qui invente ça sur elle, ou une fille où je me dis je serais pas capable de la séduire, va instantanément arriver dans ma tête la volonté de le faire. Et si un jour, je vois dans ses yeux que je lui plais, cette volonté de lui plaire va disparaître. Et c'est super malsain. C'est extrêmement malsain. Donc j'essaie de pas trop jouer avec ça. Je me dis non, on va se concentrer dans le travail, on va jouer avec le hasard. S'il y a une fille qui arrive, j'ai l'impression qu'on peut vivre un moment, et après, on passe à autre chose. J'y vais, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis pas dans les dispositions pour bâtir quoi que ce soit avec qui que ce soit.
Pourquoi tu dis que t'es un enfoiré, du coup? Parce que tu m'as l'air assez honnête lucide sur ce que tu peux ou ne peux pas faire.
On a reçu pire enfoiré dans...
Ouais, je pense. Bah, mais
on a reçu les mecs qui mentent pour baiser des meufs, quoi.
Ouais, mais... Ah non, mais je peux pas être un enfoiré à ce point-là. Ah non, ça, tu peux pas. Mais en fait, le karma ethnique. Non, le karma ethnique.
Ça, c'est l'héritage de ta mère.
Ah, ça, c'est l'héritage de ma mère. Ah non, mais tu le sais. Tu le sais qu'à un moment donné, tout va retomber sur ta tête. Je pense que t'es pas sympa avec une meuf. Et à un moment donné, ça va te retomber dessus, tu vas le voir, c'est sûr. Même en général. Donc moi, j'ai pas trop envie de le faire. Mais je dis, je suis un bâtard parce que t'es là, admettons, t'arrives dans un moment où il pourrait se passer quelque chose avec la demoiselle et je lui dis ce que je viens de vous dire. Et là, elle se dit, mais t'es un bâtard, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'elle, elle avait l'idée qu'il y avait moyen, c'est ça?
Bah, pas. Ouais, peut-être. Ou tu sais pas.
Ou alors c'est trop d'honnêteté à encaisser.
Je pense souvent que les gens sont pas habitués à ce niveau d'honnêteté.
Ouais. Je pense que les gens. Mais moi, je préfère ça parce qu'après, je reste en bon terme avec tout le monde, moi. Ça va. Mais après, c'est clair que ça met un froid, en fait.
Bah oui, la déception, elle est là, mais.
Ouais, ça met un peu un froid.
Au moins, c'est clair. C'est mieux d'être clair.
Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est une phase de ma vie que je me laisse peut-être pour plus tard, que j'explore pas trop maintenant.
Tu veux dire de se mettre en couple et...
Ah, alors ça, non, ça c'est inenvisageable, je pense.
Ah oui, non, tu parles carrément de juste... C'est...
Ouais, on va... Je sais pas, c'est un... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. En fait, je me comprends pas trop, pour être très honnête. Mais j'aime pas trop...
T'es jeune encore en même temps. Hein.
Ouais, je pense
qu'il y a ça. On l'a pas précisé, mais...
T'as 24 ans, c'est ça.
C'est ça. Ouais.
Parce qu'on dirait, je sais pas, il parle comme
on
un
mec. On dirait pas qu'il a 24 ans, mais
il parle comme un mec de 40 balais.
Mais je pense que
balais,
ça
quoi.
Aussi, ça joue aussi. Je pense que j'ai eu la chance. Non, on est tout un groupe avec tous les gars dont je vous parlais à Montréal où on a vécu des trucs, où on a vécu des galères, mais de ouf. Et je pense que ça nous a fait nous construire un peu différemment. Et ça joue dans ma séduction. Je pense que j'attends quelque chose de différent des relations que je retrouve peut-être rarement. Je pense que s'il y a ce truc-là de peut-être, en fait, je suis peut-être rarement séduit aussi, sans prétention. Sans prétention du tout.
Mais qu'est-ce qui t'intéresse plutôt chez les meufs? Alors, c'est plutôt l'intellect, c'est ça?
Je pense que ouais. Je pense que
de créer une connexion.
Mais pareil, ça, je tombe dans de l'ego à chaque fois. Dans le sens où, si je suis très séduit par l'intellect, et surtout par la rhétorique. par la manière avec certaines femmes ont la manière de d'articuler leurs idées, puis mais je rentre très rapidement dans des joutes verbales interminables.
Ah, tu veux dire que tu te mets tout de suite en
bagarre?
Ouais,
je rentre
bagarre.
Très rapidement dans du conflit. Okay. Et la joute verbale est interminable. Et ça,
Est-ce
je trouve ça
envie,
très séduisant.
T'as pas envie qu'elle ait le dernier mot?
Jamais. Et je veux des gens qui n'ont pas envie d'avoir. Oui. Qui ont pas ça, envie que je l'aie non plus.
Ça t'intéresse pas d'avoir. Oui, ok.
Voilà. Et ça, ça crée des dynamiques nulles.
Ah ouais?
Pas nulles, c'est amusant. C'est très amusant.
Ouais, ça a l'air fun.
C'est très amusant, mais ça a pas de perspective. Ça a pas de perspective en fait.
Ah ouais?
Non, parce que c'est le jeu qui devient plus intéressant.
Plus que la personne.
Ouais, c'est comme je suis pas vraiment là pour toi et t'es pas vraiment là pour moi. On est tous les deux là parce que tous les deux on joue un sport qu'on aime bien jouer. Et on a trouvé quelqu'un avec qui on est capable de le jouer à un niveau peut-être similaire.
Ok.
On arrive à se. C'est comme tes joueurs de tennis, tu trouves quelqu'un qui a le même niveau que toi, tu dis les parties elles sont intéressantes.
Ah ouais? Et donc t'arrives plus à dissocier la personne du
c'est
jeu.
C'est ça,
quoi,
je préfère le jeu après. Puis après, c'est toujours très difficile quand tu fais des longues joutes verbales comme ça d'arriver dans des trucs d'ego, de faiblesse, où les gens se livrent un peu plus.
Puis ah ouais, ça t'as du mal avec la vulnérabilité.
Ah ouais, moi j'aime pas du tout ça.
Mais mec, tu montes sur scène.
Tu fais un métier qui demande d'être tellement vulnérable, j'ai l'impression.
Tu racontes des trucs sur toi qui sont dingues sur scène.
Ouais, mais sur scène en robe et tout, détente, enfin, c'est fou.
Mais c'est peut-être ça le rapport, c'est peut-être pour ça que je le mets là-dedans.
Tu te mets à poil, mais sur scène tu te mets à poil, tu racontes tous tes pires trucs,
c'est moi qui décide de les raconter aussi. C'est-à-dire que je montre la pire image, mais c'est moi qui prends la photo, je prends l'angle que je veux, je sais l'effet que je veux avoir. Je sais qu'en montrant cette vulnérabilité, ce que je vois dans les yeux des gens, c'est pas de la vulnérabilité. Ils me voient pas comme quelqu'un de vulnérable quand je l'expose sur scène. Je suis sur scène, ils sont assis, ils ont payé pour m'écouter. Je suis debout, je parle, il y a la lumière sur moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus égocentrique? En fait, ça me lève en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils voient, quand je me mets vulnérable, ils voient plus, oh, le gars est capable de se mettre vulnérable, plus que, oh, il est vulnérable.
T'es quand même.
Je sais pas si c'est clair ce que
t'es
je veux dire.
T'es quand même tout seul face à 200 personnes.
C'est ce que disait Navo quand il faisait la première partie de Cannes. Il disait, vous avez beau être vachement plus que moi, vous regardez tous dans la même direction, tu vois.
C'est ça.
T'es pas au même niveau, quoi.
Il y a un rapport qui fait que c'est. Non. On est pareil dans de l'égocentrisme, on est dans une joute verbale de fou. Je parle, les gens ils m'écoutent. C'est tellement. Mais faut pas trop la faire cette psychanalyse parce que sinon.
Sinon tu perds toute forme de spontanéité, quoi. C'est ça que tu veux dire?
Je sais pas. Moi je sais pas. Il y a des gens qui sont persuadés que tu peux avoir réglé tes problèmes et être un bon artiste. Je sais pas. Moi je trouve que j'ai un équilibre qui me plaît. Ça me dérange pas d'être névrosé. En fait je suis pas malheureux même si ma vie sentimentale, professionnelle et personnelle rentre pas dans les codes de ce qu'on me vend comme le bonheur. Il y a des gens, ils sont en couple, ils sont très heureux, super. Moi, je le suis pas, j'ai pas particulièrement envie de l'être. J'ai pas particulièrement envie de courir après le sexe, parce que c'est overrated en plus, de ouf. La majorité du temps, il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer le sexe. Genre, je sais pas, la discussion après, qui me fait chier. Ou, tu vois, ou alors ce moment où on te renvoie un message, et t'as pas envie de répondre, et t'es malaisé, t'as l'impression d'être un bâtard. Tout ça, c'est des choses qui font que moi je suis très heureux à pas courir après le sexe, à pas rentrer forcément dans un rapport de séduction avec les femmes avec qui je parle. Oh, ça aussi, qu'est-ce que ça me fait du bien. Comme je m'en fous d'être en couple, comme baiser c'est pas ma principale activité ni ma principale volonté, quand je rencontre une femme, je la mets pas dans le rapport de séduction forcément. Je n'installe pas ce « on peut baiser, on va baiser, on va... » Non, on peut avoir des amis. J'ai une meilleure amie meuf avec qui le sexe est pas concevable. Et ça me va très très bien. Et plein de gens dans leur tête, c'est absurde, c'est inconcevable. Je dis non, pas du tout. C'est pas si... Moi, en fait, c'est pas que c'est pas si important que ça globalement, c'est que personnellement, j'en ai rien à foutre en fait. Je sais pas si je suis très heureux comme je suis maintenant, mais j'ai l'impression d'être équilibré en fait. Si toi t'as besoin de coucher avec une femme différente tous les soirs, fais-le si tu veux. Fais-le. Je suis pas là pour te juger. Moi, j'ai besoin de parler devant 300 personnes qui m'écoutent. Tu vois? Fais-le. Si t'as besoin d'être en couple en permanence, fais-le. Si c'est ton équilibre. Mais moi, je sais que, je sais pas. J'aime la solitude. J'aime le. Mon frère va faire le couple. Mon frère va. Il est en couple depuis très longtemps. Avec une fille adorable que j'adore. Je le souhaite qu'il se marie.
Il va faire des petits enfants.
Voilà.
Qu'il
remplisse cette partie-là. Qu'il fasse ce taf-là pour la famille. Pour mes parents. Pour moi aussi. Super. Mais moi, non. Laissez-moi être névrosé. Écrire des trucs sur des bouts de papier. Ouais. avoir des baises bizarres dans des endroits bizarres avec des trucs chelous. Ok. Moi, c'est ça qu'il me faut. Le couple, ça m'oppresse. Le mariage, ça m'oppresse.
Mais ça t'oppresse parce que c'est un peu la norme dans la société ou...
Non, je pense pas que c'est pour ça que ça m'oppresse. Mm. Je pense que c'est parce que c'est la norme que je me pose autant la question. Mm. Si c'était pas autant la norme, ça aurait été plus facile pour moi d'assumer que c'est pas ça que je veux dans la vie.
Ouais, c'est sûr.
Mais en vrai, ce qui m'oppresse, c'est non, c'est vraiment le mariage, en fait. C'est ce... Oh là là, moi rien que la cérémonie du mariage, oh là là.
Mais t'es pas obligé de le faire.
Ouais. T'es pas obligé, mais ça... Oh.
Bah en vrai, est-ce que c'est très différent? Je veux dire, t'es la star de la journée, quoi. Tout le monde te regarde, ah, comme dans ton métier. Sauf que ouais, regarde aussi ton épouse, a priori vous êtes deux.
Ouais, mais je sais pas. Quelque chose de trop... Il y a quelque chose de pas assez mis en scène, quelque chose de pas assez faux. Tu vois, c'est trop vrai, en fait. Il y a quelque chose de... On scelle notre amour dans le... Je dis, oh là là, non, réalise. Moi, je préfère être dans des relations où tu réalises ça peut se finir demain. Mm. Tu réalises ça, hein? Mm. On est conscient. Je veux que la personne avec qui je suis, elle est consciente de ça. Demain, tu veux que ce soit fini. Peu importe à quel point c'est douloureux, pas c'est fini. Hein? Y a pas d'engagement. Y a pas ça. Hein? Moi, en fait, il y a quelque chose qui m'énerve. En fait, je suis très très attaché à la liberté et j'ai envie de la donner à 100% aussi. Dans le sens où non. Bah... Puis j'ai pas envie de. Ah là là, j'ai pas envie d'être jaloux. J'ai pas envie. Ce sentiment-là, je le déteste.
Mais
dès que tu t'attaches, moi je sais pas, t'es jaloux.
Ah, mais comment
quand t'arrives à être jaloux, t'es jaloux des autres.
Mais pas parce que ça m'arrive d'avoir. Mais en fait, il y a ça aussi.
Si tu détestes le sentiment.
Si une fille me plaît vraiment, je fuis moi. En fait, si j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à peut-être creuser, bah, je me casse un peu. Je vais pas aller fouiller. Je suis comme non, tu sais quoi, non. Non. Bye, on va rester. On va pas trop se. Non. Tu vois ce que je veux dire? Je vais avoir des relations avec des filles que je sais que je kifferai pas, mais qui me plaisent quand même pour certains aspects. Mais si je sens qu'émotionnellement je peux être un peu trop investi.
Ok.
Non.
C'est à cause du collège donc, c'est ça?
Je sais pas. Peut-être le collège, ou pas, mais je sais que ça me. Ah! Être vulnérable comme ça, j'aime pas ça.
Ok.
Non, ouais, tu vas prendre soin de moi, super, pas besoin.
Et tu penses que ça peut évoluer dans ta vie ou pas? Ouais. Ou tu le vois pas comme ça, toi?
On va voir. Mais ça me dérangerait pas si ça évolue pas. Ouais. Si ça évolue, je vais le suivre. Mais je sais que ça me tente pas d'avoir ce sentiment de me dire qu'est-ce que cette personne fait, elle est où, et peut-être qu'elle m'aime pas, peut-être qu'elle m'aime plus. Peut-être que je... Tu vois ce que je veux dire?
Ah, ça serait des... Tu te poserais ce genre de questions sans
arrêt. Je peux pas, ça. Je peux pas. Ah non, je peux pas. Okay. Je peux pas, ça m'oppresse de ouf. Non, je préfère être seul.
Alors, je rebondis sur tu préfères être seul. T'as quand même fait un move professionnel un peu couillu, hein, si je puis dire. Alors, je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser. Mais donc, après Me Too,
ouais.
Il y a ton producteur de l'époque. Ouais, alors, tout était prêt. Hein,
ouais,
c'est ça, tu devais venir jouer à Paris, ouais, plusieurs dates.
On avait vendu quasiment 6 dates complètes.
Le mec avait tout vendu. Donc le gars, donc c'est Gilbert Rozon qui est une sorte de, c'est un peu le messie de l'humour.
C'est ouais, en termes de business, quoi. C'est un grand monsieur de l'humour francophone.
Qui s'est fait accuser d'agression, en tout cas potentielle agression sexuelle. Ouais. Et donc toi, t'as fait.
J'ai dit c'est mort, ouais. J'ai dit c'est mort. Parce que parce que quoi. Enfin, c'est pas si couillu que ça, c'est dire bon. Non, mais parce que non.
Tu te rends compte que c'est pas anodin. Tu te rends compte que je pense
c'est très rare.
Il y a plein d'artistes qui l'auraient pas fait.
Mais c'est pas quelque chose que je calcule moi en fait. Ça.
Non, je sais
tu
bien.
Vois
non.
Je me dis pour moi ça apparaît comme une évidence. Donc je vais le faire. Personnellement ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça particulièrement couillu dans le sens où ça m'a pas demandé de vraiment. J'étais pas dans le doute. Je savais que ce qui allait suivre allait être dur, mais on se dit bon on a vécu déjà dur. C'est bon. Dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir pris un risque en le faisant. C'est en ça que je trouve que c'est pas particulièrement courageux ou couillu. Moi, je trouvais que c'était le truc le plus évident à faire. J'ai pas envie de mêler mon travail dans lequel j'ai mis autant de cœur et de volonté d'amour et d'associer ça à ce genre de geste. Je veux aussi pas juste le condamner sur des réseaux. Je veux montrer que je suis profondément contre ce genre d'agissement. Et essayer de... Je suis profondément persuadé que mon projet peut rapporter quelque chose. Et si je veux rapporter quelque chose, je vais le rapporter à des gens qui sont en accord avec mes valeurs, en fait. J'ai pas envie de donner du pain à des gens qui construisent un monde dans lequel j'ai pas envie de vivre, en fait. Je vais donner du pain à ceux qui construisent un monde dans lequel je me sens bien. Du moins, je vais essayer, parce que c'est très idéaliste ce que je dis.
Ouais.
Mais je vais essayer dans la mesure du possible de faire ça. Voilà, après, moi, je suis pas là pour condamner Gilbert Rozon, je suis pas un tribunal. Il y a toujours, jusqu'au jugement, la présomption d'innocence. Voilà, c'est pas ça le débat. Mais moi, des accusations, ça suffit pour dire je vais pas associer mon travail, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, s'il y a un doute, c'est mort. On bouge. On doit être irréprochable.
Tu t'identifies comme féministe ?
Oui. Bah oui, complètement.
Toute évidence, ça t'a...
Ouais,
ça...
Ouais.
Tu t'es jamais... Enfin, il y a plein de gens, et notamment plein de mecs, pour qui c'est pas si évident, justement. De le dire, en tout cas. De le ressentir et d'agir féministe. En fonction, c'est parfois plus simple que de dire le mot, tu vois.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, cette question-là, on en a fait quelque chose de... C'est quelque chose de si simple, en fait. Et on en a fait des débats qui vont... À droite, à gauche, c'est juste que ton sexe ne détermine rien d'autre dans comment t'es traité par la société. C'est tout, en fait. Et il y a pas grand chose d'absurde là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve
j'ai envie de dire Roman président, quoi.
Tu vois, j'ai envie de dire, je comprends pas. On avait fait un passage de clic là-dessus, mais je comprends pas comment ça peut être une question aujourd'hui. T'as une femme, t'es un homme, ok. Mais bon, dans le travail, par exemple, ça change quelque chose? Non. Tu fais le même travail. T'as le même salaire, ok. T'es une femme, t'as envie de faire ça, tu fais ça, peu importe ce que c'est. T'es un homme, t'as envie de faire ça, tu fais... Enfin, tu fais ce que tu veux. En fait, les hommes aussi, beaucoup ont l'impression que la lutte féministe est une lutte qui a pour objectif d'augmenter les droits des femmes et de réduire les droits des hommes. Ils ont l'impression que c'est une lutte. Ah, pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, donner aux femmes les droits qu'elles méritent et qu'elles ont, en fait, dans l'absolu, c'est des droits qu'elles ont, qui sont juste pas respectés. Et bah ça enlève des droits aux hommes. Mais pas du tout. C'est pas du tout. C'est comme si toi, tous les jours, tu reçois assez à manger et que ton voisin, il reçoit la moitié. Et toi, ton combat, ça peut faire en sorte que lui aussi, il reçoit autant à manger. Toi, ça va pas t'enlever. Tu dis, bah, comment ça peut te déranger? C'est ça que je comprends pas, en fait.
Bah, nous non plus. Hein.
Bah ouais,
je pense qu'à la base, il y a cette incompréhension de les gens ne savent pas vraiment quel est le but du féminisme, ce que le mot veut dire. Et
c'est ça.
Alors je pense que le but, mot, c'est l'égalité.
Le nom de la cause. C'est ça, le nom de la cause, malheureusement, on ne rend pas service, je pense, à la cause. Le fait que ça s'appelle féministe. Après, c'est très compréhensible, sachant qu'on n'est pas. On se bat pas pour. Enfin, les femmes ont concrètement moins de droits que les hommes aujourd'hui. Donc, c'est. Pas étonnant que cette lutte-là porte le nom des femmes, parce qu'aujourd'hui, si on veut égaliser les droits entre les genres, c'est les droits des femmes qu'il faut augmenter. Mais c'est pas une lutte pour les... En fait, c'est pas une lutte pour les femmes, c'est une lutte pour tout le monde, en fait. C'est une cause qui est commune. Je sais pas qu'on vive dans un monde où tout le monde a les mêmes droits. Oui. Pour moi, tu dis ça, tu dis, qui peut douter? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je comprends pas. Comment tu peux dire, ah non, parce que... Ah. C'est pas possible.
Je pense qu'on est d'accord.
Ouais.
On va commencer à conclure,
ouais,
je
on
pense.
Peut conclure,
on a bien parlé. Ouais. J'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser à quasiment tous les invités. Il y en a parfois où j'oublie. Mais là, ça va, j'ai pas oublié.
Bravo.
Est-ce que t'as... Merci. Est-ce que t'as un exemple d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité?
Bah, il y en a plein.
C'est marrant parce que la plupart des gens, je le renvoie en avance parce qu'ils me disent, en fait, enfin, au début, je l'ai posé comme ça, sans prendre de l'avance. Et en fait, il y avait beaucoup de là, chaud, je sais pas quoi, j'en vois pas. Donc, ça m'intéresse que tu dises, il y en a plein.
Il y en a plein, mais après, en trouver un pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si on en trouve un.
T'as le droit d'en dire plusieurs. Hein. C'est juste que généralement, d'en trouver un, c'est un peu galère. Donc, on s'arrête à un, mais t'as le droit d'en dire plein si tu veux.
Un symbole de masculinité, je sais pas. J'essaie de réfléchir. Hein. Je sais pas, moi, Prince, je le trouve très fort pour ça. Il y a quelque chose de marrant. Déjà, il est minuscule. Un homme, on attend qu'il soit grand. Je veux dire, il est minuscule. Très efféminé. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement masculin, notamment dans sa séduction, dans sa sexualité. Il y a quelque chose d'extrêmement masculin. Donc Prince, je pense Prince, c'est un symbole intéressant de masculinité. Probablement parce qu'il a, ouais, probablement parce qu'il en a fait quelque chose de moins caricatural.
C'est une bonne réponse, c'est une qu'on n'a pas encore eue, donc bon, c'est cool.
Vous avez eu qui par exemple?
On a eu Barack Obama en premier.
Barack Obama.
On a eu des personnages, c'était Lame qui avait dit les mecs de GTA. Donc c'est parce qu'il y a un GTA où il y a trois personnages principaux qui sont tous un peu différents et du coup il était content qu'il y ait les trois chemins d'être un homme d'une certaine façon.
Ah ouais, je comprends.
On a eu un mec de Dragon Ball, je sais plus qui. On a eu Harry Styles qui est peut-être plus lié au délire de Prince dans l'idée. C'est un chanteur qui est pas dans les codes de virilité, grand, musclé, machin, mais qui déjà peut baiser environ qui il veut parce qu'il sort vraiment avec des super modèles. Et qui a un look qui pareil est assez...
Ah non, c'est bon, j'ai trouvé.
Ok.
Il cherche depuis tout à l'heure.
Zinedine Zidane. Je suis con, quoi. C'est Zinedine Zidane.
Ouais, pourquoi ?
Bah oui, c'est Zinedine Zidane. Humilité, succès, force, esprit d'équipe, maîtrise du timing, image, nickel.
Il parle pas des masses.
Il parle pas beaucoup, justement.
Ah, c'est ça.
Moi, j'aime ça.
Son père non plus, il parle pas
c'est
beaucoup.
C'est ça, moi, j'aime. Il y a un jour, enfin. Silence.
Un boys club spécial sur les pères.
Ah ouais, non. Pas Prince. Je suis désolé, Prince. Zinedine Zidane.
Ah donc pour toi, c'est Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane, plus que tout.
Putain, mais pourtant, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Ils n'ont rien à voir. Mais ils sont dans des registres différents.
Ouais.
Mais.
C'est trop marrant.
Mais Zinedine Zidane.
J'ai l'impression qu'il y a le côté de ta mère et t'as le côté de ton père.
Exactement, ouais. Mais Zinedine Zidane, pour moi, il rejoint les deux. Dans le sens, moi, je trouve Zinedine Zidane, je suis persuadé que spirituellement, il a une puissance qui est négligée. Je sais pas, ouais, mais bon, c'est probablement volontairement mystérieux. Je pense qu'il a probablement raison de ne pas en parler. Mais je pense que tu ne peux pas avoir autant de succès sans une profonde compréhension de comment fonctionnent les choses à un niveau essentiel. Dans le sens où, pour maîtriser sa chance à ce point-là, ou maîtriser le hasard à ce point-là, c'est, pour moi, tu dois, je sais pas... On parlait de comment tu deviens beau en dégageant quelque chose. Ce gars-là, il a ça à 1000%. Ouais, Zinedine Zidane.
Je sais pas si après les auditrices et les auditeurs de Boys Club suivent, mais en fait, donc Zinedine Zidane, après la carrière de footballeur à succès qu'il a fait, etc., il est devenu coach. Et là, il a gagné pour la troisième fois d'affilée la Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce qui est un truc qui n'est
jamais arrivé.
Jamais arrivé. Et qu'est-ce qu'il vient de faire ?
Il est parti.
Il vient de dire, j'ai même vais.
Exactement.
Avec cette voix,
avec cet accent nul.
Exactement. Exactement. Et moi, ce que j'aime beaucoup de Zinedine Zidane, c'est qu'il est extrêmement célèbre, mais surtout pour ce qu'il a fait sur le terrain, en fait. Dans sa vie personnelle, soit il a une extrêmement bonne maîtrise de son image, soit on le sait pas. Et je trouve ça très fort, en fait. Je trouve ça très très fort. Même son coup de boule en finale de la Ligue des Champions, enfin en finale de la Coupe du Monde, c'est pas masculin ça ? Dire insulte, si t'insultes ma famille, c'est plus important que ça là. C'est finale de la Ligue de la Coupe du Monde. Si je gagne ce match, je suis Ballon d'Or, je suis probablement l'un des plus grands. Je suis une légende. Déjà que je le suis, je suis à vie une légende partout. Tout repose sur moi, toute la pression. J'ai fait une compétition extraordinaire. Mais non. Ça, tout ce que la majorité ce que beaucoup de gens rêvent de vivre une fois dans leur vie, dit ça là, moi je vous le dis, c'est moins important que la famille. C'est pas fou ça ? Et un bon coup de tête.
Et la violence, tu cautionnes ça, toi ?
Quel suspense ! Eh bien, je suis vraiment désolée, car ce Boys Club s'arrête ici. Malheureusement, suite à un souci technique, on n'a pas enregistré la fin du discours de Roman Frayssinet. C'est très dommage, puisqu'il avait un propos très intéressant en réponse à la question de Fab, où il parlait notamment de la violence physique qu'on excuse peu, alors que la violence verbale est souvent tolérée. Je vous promets que quand je recroise Roman Frayssinet, par exemple à l'occasion de son retour sur scène à l'automne 2018, j'essaierai de lui reposer la question au micro pour que vous puissiez entendre sa réponse. Je vous tiens au courant, mais je vous rassure, il ne manque que ça. Tout le reste du Boys Club de Roman Frayssinet, vous venez de l'écouter et j'espère qu'il vous a plu. J'en profite donc pour vous remercier à nouveau d'écouter The Boys Club, ça me fait très plaisir et je suis très fière de ce petit projet qui en est déjà à son 15e épisode. Vous connaissez la chanson, si vous êtes sur YouTube, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et si vous êtes sur une plateforme de podcast, type iTunes Podcast, Mettez-moi 5 étoiles et un petit avis pour que The Boys Club soit de plus en plus recommandé et que de plus en plus de gens viennent réfléchir à la masculinité pour créer un monde plus beau. Merci encore à Roman Fraissinet d'être venu dans The Boys Club, ça m'a fait très plaisir et sachez que c'est l'épisode où j'ai fait le moins de cuts puisque je n'ai tout simplement rien coupé. J'ai mis play à l'intro et je n'ai rien coupé pendant tout le long. On n'a pas besoin de tailler dans le discours de Roman Fraissinet, il est très fort. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.